Donc, je vais passer la parole à Thomas Coutreau sur le groupe de travail du Conseil national de l'information statistique.
Oui, donc le CNIS, donc le Conseil national de l'information statistique, va présenter demain les résultats, le rapport de son groupe de travail sur les indicateurs d'emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l'emploi, groupe auquel nous avons participé, collectif ACDC. Ce groupe a été créé donc suite à la controverse autour des chiffres du chômage, de façon à faire des propositions au système statistique public en ce qui concerne la rénovation des indicateurs de chômage, de sous-emploi et de précarité de l'emploi. Alors, on ne va pas présenter le contenu du rapport, d'abord parce qu'il y a un embargo jusqu'à demain, et ensuite parce que il sera présenté demain au CNIS. On va juste dire nos réactions principales, disons notre position principale par rapport au rapport, et ainsi insister sur les difficultés que nous rencontrons et que le système statistique rencontre en ce moment avec une décision unilatérale de l'INSEE qui modifie de façon assez permanente les séries statistiques et affecte de cette façon nuit à la possibilité de suivre correctement l'évolution des indicateurs dans le temps. Alors, sur le rapport donc lui-même, vous verrez demain, mais en gros, nous considérons qu'il y a eu des avancées significatives sur la question des indicateurs de chômage, et notamment parce que désormais, c'est l'enquête emploi de l'INSEE qui est la source autour de laquelle pivote le système d'observation du marché du travail, aussi bien de l'emploi que du chômage et de la précarité. Ça, c'est ce que nous avions demandé depuis plus d'un an, qu'on cesse d'utiliser les données de l'ANPE comme source crédible sur l'évolution du chômage et qu'on se réfère principalement aux données de l'enquête emploi de l'INSEE, qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup moins sujettes à des manipulations administratives, à des changements dans les modes de gestion des demandeurs d'emploi, sont donc une source, a priori, beaucoup plus fiable. Donc nous félicitons que cette évolution soit maintenant réalisée. En plus, on se félicite que le rapport reconnaisse la validité, la fiabilité de cette enquête sur l'emploi, parce que on a eu un rapport officiel qui est sorti il y a quelques mois, un rapport de l'Inspection générale des finances et des affaires sociales, qui, tout en prenant, tout en relativisant les données de l'ANPE, critiquait aussi beaucoup la fiabilité de l'enquête emploi, critiquait à tort, à notre avis, la fiabilité de l'enquête emploi, jetait la suspicion sur le résultat de cette enquête. Bon, il nous semble que cette enquête est une bonne base pour évaluer l'évolution du chômage. Alors, on regrette cependant que le rapport du CNIS ne tire pas clairement les bilans de la controverse qui a eu lieu l'année dernière au moment de la campagne électorale, et en particulier que le CNIS n'admette pas que l'INSEE a commis une erreur en refusant de publier ses résultats sous prétexte qu'ils étaient divergents avec ceux de la NPE. Ça, c'était à notre avis une grave erreur de l'INSEE. C'était l'enquête emploi de l'INSEE qui avait raison. Aujourd'hui, c'est clairement établi. Les données de la NPE indiquaient une tendance qui était fausse, et l'INSEE a eu tort de ne pas publier ses propres résultats. Et là, je pense que le CNIS aurait dû tirer clairement cette conclusion. Ça n'est pas le cas, nous le regrettons. Alors, il y a un certain nombre de propositions qui sont intéressantes dans le rapport, je le répète, et notamment concernant la mesure du chômage, de la récurrence du chômage, différents indicateurs aussi. Nous avons particulièrement insisté, et là nous avons été très partiellement entendus, pour que soient développés de nouveaux indicateurs concernant justement la qualité des emplois, ce dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il nous semble que, certes, le chômage baisse, mais la qualité des emplois créés a plutôt tendance à baisser, elle aussi, et nous manquons cruellement d'indicateurs sur cet aspect des choses, sur la qualité des emplois, sur la soutenabilité des emplois ou sur le caractère plus ou moins souhaitable, adéquat. L'EBIT a parlé d'emploi inadéquat, ça nous semble une expression tout à fait utile. Donc nous avons beaucoup insisté pour que l'INSEE, pour que le système statistique public développe des instruments d'évaluation et de suivi de la précarité de l'emploi, de la qualité de l'emploi. De ce point de vue-là, nous n'avons pas été entendus. Puisque, en gros, le groupe de travail du CNIS a refusé d'intégrer plusieurs de nos propositions, notamment sur la mesure des bas salaires. Nous demandions à ce qu'un indicateur de bas salaire soit publié annuellement. Un bas salaire, c'est un salaire qui est inférieur à 2/3 du salaire médian. Donc, le groupe de travail... Alors, c'est un indicateur qui existe, qui est assez commun, assez courant dans les études sur le marché du travail. Eh bien, le CNIS n'a pas pour l'instant souhaité qu'on introduise cet indicateur dans le dispositif de la statistique publique. De même, nous n'avons pas réussi à faire acter la création d'indicateurs sur le déclassement professionnel, c'est-à-dire les salariés qui occupent des emplois très inférieurs à leur niveau de qualification. C'est aussi un phénomène qui a tendance à se développer. On peut le mesurer dans l'enquête emploi, mais ça n'est pas un indicateur qui est mis en avant. À notre avis, c'est une erreur. Et autre indicateur que nous n'avons pas vraiment réussi à faire progresser, c'est un indicateur de mauvaises conditions de travail. C'est certain, des conditions de travail qui sont délétères pour la santé. On devrait pouvoir mesurer la part des emplois, des emplois créés notamment, qui ont des caractéristiques délétères pour la santé. Donc de ce point de vue-là, nous ne sommes pas satisfaits des résultats du rapport, des conclusions du rapport du CNIS, et nous demandons que le CNIS continue ses travaux, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau groupe de travail qui soit créé autour de cette question de la qualité de l'emploi et des indicateurs de la qualité de l'emploi, des indicateurs conjoncturels, de façon à ce qu'on puisse continuer à creuser cette question. Là, nous pensons que le groupe de travail n'a pas abouti à des conclusions satisfaisantes. Alors, un point qui est particulièrement sensible aujourd'hui, c'est qu'on avait un indicateur quand même qui permettait, qui est un indicateur très imparfait, mais qui était quand même un indicateur qui permettait de suivre une tendance sur la qualité de l'emploi, c'était l'indicateur de sous-emploi. Le sous-emploi, c'est le taux de sous-emploi, c'est la proportion de salariés à temps partiel qui souhaitent travailler davantage, donc qui sont à temps partiel contraints. Cet indicateur montait régulièrement depuis que l'enquête emploi en continu existe, c'est-à-dire depuis 2003. L'INSEE a publié dans sa dernière publication Information rapide du 5 juin 2008, a publié la courbe qui montre une croissance régulière de l'indicateur de sous-emploi de 2003 à 2008, à 2007 plus exactement. Or, en 2008, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'indicateur qui décroche. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a tout d'un coup un point qui se trouve 300 000 personnes en dessous. C'est-à-dire qu'on brutalement, entre le dernier trimestre 2007 et le premier trimestre 2008, le taux de sous-emploi a baissé de plus d'un point et il y a 300 000 personnes en sous-emploi en moins. Alors évidemment, ce n'est pas que la situation s'est dramatiquement améliorée sur le marché du travail. C'est que l'INSEE a changé la façon de poser la question dans l'enquête emploi, sans prévenir personne, sans même prévenir le groupe de travail du CNIS, qui justement travaillait sur ces questions-là et qui insistait, vous le verrez demain, sur la nécessité de construire des séries longues, homogènes, qui permettent de faire des comparaisons dans le temps et de mesurer les tendances. Et bien, crac, juste à ce moment-là, l'INSEE modifie unilatéralement, sans prévenir personne, sans prévenir les membres du groupe de travail, la mesure du taux de sous-emploi et fait disparaître du jour au lendemain, 300 000 personnes de la catégorie du sous-emploi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a une explication officielle qui est que l'INSEE a voulu améliorer, je mets des guillemets parce que, a voulu améliorer sa question. Au lieu de demander aux salariés à temps partiel, souhaiteriez-vous effectuer un nombre d'heures de travail plus important? Donc, voilà, vous travaillez à temps partiel, souhaiteriez-vous effectuer un nombre d'heures de travail plus important? C'était la question traditionnellement posée. Eh bien, au premier trimestre 2008, l'INSEE a demandé auriez-vous souhaité effectuer un nombre d'heures de travail plus important la semaine dernière? Évidemment, ça change pas mal de choses, parce que les gens, bien entendu, ont pris leur disposition par rapport à leur situation actuelle, qui est d'être à temps partiel. Donc la semaine dernière, ils n'étaient pas organisés pour travailler à temps plein. Logiquement, beaucoup d'entre eux vont répondre « Ben non, la semaine dernière, je n'aurais pas souhaité travailler davantage, je n'aurais pas pu. » Alors, pourquoi l'INSEE a-t-elle procédé à cette modification qui paraît absurde d'un point de vue simplement, d'un point de vue logique ? Nous ne le savons pas, il n'y a aucune explication donnée. L'explication donnée, c'est pour se rapprocher de la définition du sous-emploi au sens du BIT. Alors, nous pensons que c'est un argument qui ne tient pas la route. Hein. Logiquement, il n'y a pas de raison de demander ce que les gens auraient fait la semaine dernière, auraient voulu faire la semaine dernière. Ça, je ne pense pas que le BIT exige ce type de formulation. Donc là, il y a véritablement quelque chose d'inadmissible. Hein. On avait un seul indicateur qui permettait de suivre à peu près de façon très approximative, parce que le sous-emploi contraint, c'est le travail à temps partiel contraint, c'est pas du tout. Ça se résume pas, la qualité de l'emploi se résume pas à cet indicateur, mais enfin au moins il existait. Et là, tout d'un coup, il devient inutile puisque on a une rupture de série qui fait qu'on va pas pouvoir, mesurer les évolutions de moyen terme. Donc nous demandons que l'INSEE revienne en arrière sur cette innovation totalement absurde et recommence à poser la question qu'il a toujours posée depuis que l'enquête emploi existe sous cette forme, et qui est la question normale sur le sous-emploi. Donc ça, c'est significatif de notre point de vue d'un danger que nous n'avons cessé d'ailleurs de dénoncer depuis plusieurs mois, cette illusion qu'on peut améliorer entre guillemets en permanence les enquêtes, notamment l'enquête emploi, se rapprocher d'une enquête parfaite qui aura un taux de réponse de 100%, qui aura une méthodologie parfaite, et pour viser cet idéal complètement inatteignable de l'enquête parfaite, on n'arrête pas d'introduire des modifications dans la méthodologie, dans les questionnaires, qui font que on ne va plus rien y comprendre, et on n'y comprend déjà plus rien. Alors à l'évolution du chômage, on sait que au mois de septembre, l'INSEE a changé le mode de calcul du chômage, qui a permis de faire baisser d'un point, par un simple changement de mode de calcul, le taux de chômage, ce qui a permis de minorer, enfin de réduire d'autant la réévaluation à la hausse qui avait été nécessaire du fait de l'abandon de la référence au chiffre de la MPE. Là, on se trouve à nouveau face à une rupture de série qui introduit une confusion totale dans l'analyse des évolutions sur le marché du travail. Voilà un petit peu ce que je voulais dire rapidement. Donc vous avez dans le dossier un texte de 4 pages détaillant un peu plus notre analyse du rapport de Foucault, hein, puisque c'est le rapport présidé par Jean-Baptiste de Foucault qui va être présenté demain.
Donc est-ce que vous avez des questions sur cette partie ?
Y avait-il au sein du groupe de travail dans le CNIS des personnes qui étaient sur votre position ? Enfin, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient avec vous qui ont un peu le même discours que vous ?
Ça dépendait un peu des questions qu'on abordait. Donc,
nous étions présents dans le groupe de travail. Hein,
donc. Oui, c'est ça.
Oui, d'accord. Oui.
Donc, si vous avez constaté que d'autres.
Il y a eu. Enfin bon. Quand vous lirez ce rapport, qui fait une cinquantaine de pages, il y a beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de positions, de constats, de points de vue qu'on peut émettre par rapport aux différentes propositions. Donc je ne vais pas tout balayer, mais je vais essayer de prendre peut-être un ou deux exemples. Celui qui me vient à l'esprit, qui je pense sera important, enfin d'ailleurs on le souligne dans la note que vous avez, c'est qu'est-ce qu'on fait des statistiques de la NPE, hein, puisque désormais, on a une publication trimestrielle de l'INSEE qui nous donne un taux de chômage, c'est le seul taux de chômage qu'on a, et nous on considère dans le collectif que c'est effectivement la bonne solution de se caler sur une enquête qui est la seule à pouvoir mesurer un taux de chômage, donc c'est normal qu'elle nous donne un taux de chômage. Donc on a ce chiffre tous les trimestres, mais on continue d'avoir tous les mois les statistiques administratives. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire dire à ces statistiques administratives ? Notre position, la position du collectif, c'est de dire que ce sont des données utiles, il ne s'agit pas de plus faire de statistiques. Au contraire, on pense que c'est. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut analyser à travers ces statistiques, mais ce ne sont pas des statistiques du chômage. Ce sont des statistiques administratives, c'est-à-dire qui permettent de recenser les personnes inscrites à la NPE, enfin, on y verra tout à l'heure, au futur service fusionné avec l'UNEDIC, France Emploi, etc. Enfin, à ce qui reste encore, disons, le service public de l'emploi. Et donc voilà, ça mesure une activité administrative, c'est-à-dire la confrontation entre une demande de la part des gens et une offre, disons, de la part des services publics concernant cette attente. Donc on pense que le titre même de la publication, déjà, devrait être changé. Si vous regardez les publications d'Adares, ça continue à s'appeler « Le marché du travail » en mars, mai, etc. On a proposé, comme c'est détaillé ici, que ça s'appelle, si je me souviens bien, les demandeurs d'emploi inscrits à l'IPE ou les usagers du service public d'emploi. Enfin, que ça déporte le regard sur, en disant « Attention, ça, c'est pas une statistique du chômage, hein, c'est une statistique simplement qui... Et encore une fois, est à l'intersection des demandes des personnes en chômage ou en demande d'emploi ou en sous-emploi, et puis des services que la statistique publique peut lui apporter. Et sur ce point-là, il y a eu moi je pense qu'on peut dire qu'il y avait une majorité des membres du groupe de travail qui étaient tout à fait d'accord pour justement changer cette domination. On n'a pas eu ce débat, à ma connaissance, de façon plus nette sur les nouvelles catégories des demandeurs d'emploi. Et nous, ce qu'on dit, ce que je crois que ça n'a pas été dit dans la présentation de Thomas, mais on peut insister là-dessus, il est proposé maintenant, à partir des statistiques administratives, de faire des regroupements. Donc, on ne voit pas trop bien l'intérêt de faire ces regroupements. Deux, il risque d'y avoir un amalgame à travers ces regroupements, c'est ce qu'on pense en tout cas dans le collectif, entre un pseudo-chômage au sens du BIT. C'est déjà ce que faisait l'INSEE lorsqu'il calculait un taux de chômage actualisé au moins le mois. C'est-à-dire qu'il essayait, à travers les catégories statistiques de la NPE, hein, ces données administratives, d'isoler celles qui se rapprochaient le plus, mais sans en être exactement le reflet, du chômage au sens du BIT, pour actualiser au moins le mois son taux de chômage. On voit que ça a clairement créé plus que des dysfonctionnements importants depuis 2 ans. Et donc reconstituer des catégories agrégées A, B, C, D, vous le lirez dans le rapport, qui en fait reprennent d'une certaine façon cette pseudo-catégorie de chômage, ça ne me semble pas une bonne chose, et on ne voit pas du tout ce que ça apporte. J'ai 2 réponses à vous apporter. Ben, encore une fois, il y a plein de choses qui... Mais je pense que c'est un point important, parce qu'il faudrait désormais que s'installe dans le débat une référence... sur le chômage, et qu'ensuite on aborde la question des services proposés aux demandeurs d'emploi d'une autre façon, et certainement pas en considérant que leur nombre représente quelque chose qui serait proche du chômage.
Y a-t-il d'autres questions ?
Est-ce que vraiment les statistiques du BIT ou des autres pays européens prennent la même définition du sous-emploi par auriez-vous aimé travailler plus la semaine dernière, ou est-ce que c'est seulement quelques pays? Est-ce qu'on est obligé de s'aligner dessus, ou est-ce qu'on peut défendre une autre définition du sous-emploi?
Enfin, je pense que ça a été dit par Thomas. Définition de sous-emploi sans mobilité, c'est il faut 2 conditions, c'est-à-dire travailler moins qu'une norme et afficher le souhait de vouloir travailler davantage. Il n'y a nulle part, à ma connaissance, l'idée qu'il faudrait avoir pu travailler davantage il y a une semaine, ou il y a 2 mois, ou il y a 3 mois. Enfin, ce qui fonde la différence de critère de mobilité, c'est le souhait des personnes de vouloir travailler davantage. Parce qu'il y a des tas de gens qui travaillent à temps partiel qui ne vont pas afficher ce souhait. Donc c'est une sorte de sous-emploi masqué qui n'est pas mesuré dans les statistiques pour des tas de raisons. Parce que si on prend les raisons pour lesquelles les personnes travaillent à temps partiel, y en a qui déclarent travailler à temps partiel parce qu'elles ont des contraintes familiales et autres. Et donc pour cette raison-là, ne souhaitent pas travailler davantage. Donc pour dire que c'est du sous-emploi masqué qui n'est pas mesuré dans les statistiques. Mais a priori, il n'y a aucune raison de se caler sur une période de référence pour observer ça.
Monsieur ?
Pour revenir sur une expression que vous disiez, on ne pose pas la question. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire la semaine dernière? Et le senior qui aurait aimé travailler la semaine dernière, il fait quoi à la date d'aujourd'hui? Parce que ça, le retour à l'emploi des seniors, personnellement, j'y crois pas trop. C'est qu'on en est. C'est qu'ils en sont, eux, dans leur promesse du retour à l'emploi des seniors.
Sur le retour à l'emploi des seniors... C'est un clair échec, quoi.
Ouais,
ça n'a pas bougé, quoi. Depuis.
Le taux d'emploi des seniors a quand même un peu remonté ces dernières années.
Enfin, l'objectif, je ne sais pas où on en est à.
Un petit peu.
par rapport à l'objectif, on est très très loin, vraiment loin de l'objectif. Je ne sais plus, le taux d'emploi des seniors sur les 55-64, je ne sais pas quel était le taux d'emploi qui était recherche, qui était visé, mais
70.
Bon, on a, je sais pas, on est passé de 30 à 30,1, non, je rigole, mais non, bien sûr, c'est pas ça, mais non, mais enfin, on est, ça, oui, ça a bougé, mais on veut dire, on est tellement loin des 70 que.
Ouais.
Ben, il faudra avoir fait 5 fois ou 10 fois plus de chemin pour dire qu'on y est. Quoi.
Ah. Et en attendant, ils sont retraités.
Non, mais les rapports, par exemple, le Conseil d'orientation des retraites, puisque bon, le Conseil d'orientation des retraites s'occupe beaucoup de cette question-là. Bon, sur cette question-là, il n'y va pas tellement par 4 chemins, il me semble. Hein. Je n'ai pas lu en détail, mais bon, pour eux, clairement, ça va pas, enfin, c'est vraiment nettement insuffisant.
Oui, avec la retraite.
Pierre Concialdi.
En lien justement avec la question des retraites, hein, enfin, c'est tout à fait l'actualité, me semble-t-il, c'est que le gouvernement aujourd'hui, vous savez qu'il y a un rendez-vous en 2008, il dit. Pour savoir justement si allonger la durée de cotisation et demander aux gens de travailler plus permet réellement, entre guillemets, de financer les retraites. Parce que bon, le terme de financement est un peu biaisé, à mon avis, là-dessus, mais enfin, peu importe. L'engagement du gouvernement en 2003, c'était de dire, on va faire passer l'âge de cessation d'activité de 57 ans et demi à 59 ans. Et là, j'ouvre des guillemets. Sinon, on ne pourra pas allonger la durée de cotisation. Et ces guillemets, c'est François Fillon qui disait ça à l'époque, hein, dans une émission de télé. Il avait clairement affiché l'idée que si on n'arrivait pas à faire en sorte que les entreprises maintiennent davantage les salariés âgés dans l'emploi, eh ben, il faudrait effectivement revoir cette idée, parce qu'on ne peut pas demander à la fois aux gens de rester davantage dans l'emploi se constater qu'ils sont de fait, entre guillemets, vidés, chassés de l'entreprise à partir de 55 ou 57 ans. Et donc ça, effectivement, ça n'a pas changé depuis 3 ans. Et même d'après les statistiques d'Eurostat les plus récentes, l'âge moyen de cessation d'activité, il a même augmenté un petit peu depuis 2003. Donc clairement, il y a un échec patent qui est tout à fait contradictoire avec toute la politique, on sort un peu du chômage, mais on va y revenir tout à l'heure, que cherche à promouvoir aujourd'hui le gouvernement sur les retraites. C'est clair.
Y a-t-il d'autres questions, donc, soit pour poursuivre le débat
Pour poursuivre sur cette question-là, si le gouvernement faisait comme certains l'annoncent, décidait d'annuler, par exemple, ou de supprimer, ou de réduire les dispenses de recherche, les dispensés de recherche d'emploi, pour les inciter, entre guillemets, à retrouver un emploi, etc., et à développer l'emploi des seniors, ça aura certainement des effets sur les statistiques du chômage. Ça fait 300 ou 400 000 chômeurs en plus. Donc je crois, avant de procéder à ce genre d'évolution, ils vont réfléchir à deux fois.
Donc y a-t-il...
Je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose. C'est l'intérêt justement de l'enquête emploi, c'est que je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose dans les déclarations des personnes à l'enquête, parce que la plupart des gens qui sont effectivement dispensés de recherche d'emploi aujourd'hui ne recherchent pas d'emploi. Il y en a une partie qui en recherche quand même. Je ne suis pas sûr que la suppression de la catégorie administrative changerait les comportements réels. Bon, il serait... De toute façon, la grande majorité de ces gens sont hors d'état de retrouver un emploi. Souvent, ils sont malades. Donc, ils glisseraient vers des catégories d'invalidité, de maladie de longue durée. On sait bien comme ça se passe dans ces cas-là. On ne peut pas imaginer que une fraction importante de ces gens retrouveront facilement un emploi comme ça, parce qu'on supprime une catégorie administrative.
Alors, y a-t-il d'autres interventions, monsieur ?
Oui, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est que les jeunes de plus de 50 ans, en majorité, ils ont des salaires beaucoup plus élevés. Et ils ont des primes d'ancienneté. Ça vient de là. La difficulté de retrouver de l'emploi quand ils se trouvent. Les emplois qu'on leur propose, c'est égal à leur allocation. Et ils vont aller travailler.
Oui, madame.
Question qui dépasse peut-être un peu les statistiques du chômage, mais donc il y a vous êtes conscient collectif justement pour critiquer les statistiques du chômage. Est-ce que vous avez, et on sait qu'il y a d'autres statistiques qui sont sujettes à caution, notamment l'inflation, est-ce que vous avez connaissance de groupes comme vous qui vivent dans d'autres sur d'autres statistiques, que vous voyez aussi des fonctionnaires comme ça, si vous avez des questions, de leur faire la même chose? Il n'y a que sur le chômage qu'il y a des controverses, disons, il y a un collectif qui arrive à animer un peu la contradiction.
Vous voulez nous inciter à faire d'autres collectifs? À ma connaissance, il n'y a pas ce type de... Des associations de consommateurs sont beaucoup plus importantes dans ce débat-là, en tout cas.
Sur la pauvreté, quoi.
Sur la pauvreté, il y a quand même le BIP 40. Le RAI qui a créé le BIP 40. Donc, des critiques alternatives sur les statistiques, oui, madame.
Il y a quand même un collectif qui regroupe plusieurs associations de chômeurs, de précaires, d'intermittents du spectacle et l'Union syndicale solidaire depuis 2006, qui dénonce et fait de l'explication et de l'information sur la flexi-sécurité à la française, avec les lois en cours, là, les projets de loi sur ce qu'on appelle euphémiquement la modernisation du marché du travail et sur l'offre raisonnable d'emploi. Il y a quand même ce collectif qui existe.
Pas sur les stats. D'accord.
Mais sur les statistiques, effectivement, c'est... Enfin,
il y a quand même un article de Pierre Consigny. Voilà, dit, quand même.
C'est ce que Pierre va présenter maintenant.
Oui, on ne s'intéresse pas uniquement aux statistiques.